Pierre Philippe, théologie mystique, le 13 février 87, mal s'emparer d'une façon si forte de l'univers, ce qui risque toujours de nous scandaliser. Le Dieu de bonté, le Dieu de justice, tolère d'une manière inouïe l'emprise du mal, à tel point que quelquefois on a la tentation de dire que nous, si nous étions Dieu, on ne ferait pas ça. Dans l'écriture, que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, aussi éloignées le ciel de la terre, aussi éloignée les voies de Dieu que l'autre. Or, c'est justement à l'égard du mal qu'on reconnaît le mieux les voies humaines. Toujours. Le mal nous individualise d'une façon très spéciale. La souffrance et le mal, ça nous individualise d'une façon très très forte, puisque c'est notre propre chair, c'est notre propre corps, c'est notre âme capable de souffrir. Et donc, cette très forme manifestée, la manière particulière dont on réagit comme créature. Et Dieu agit d'une façon totalement différente. Et je crois que la seule manière d'enlever le scandale, parce que le scandale existe quand on est sous pression, dans le sens propre, c'est-à-dire qu'on pâtit, et on a envie que Dieu quand même se réveille, oui, dans l'Apocalypse. Le cinquième saut. Le cinquième saut est très très net. Jusqu'à quand vas-tu laisser ces injustices ? On voudrait rappeler secouer Dieu pour qu'il agisse, pour qu'il intervienne. Mais ça, je crois que c'est très très normal, humainement parlant. Et Dieu agit autrement. Et c'est vrai, quand vous regardez attentivement ce passage, il dit là d'une façon très concrète et très forte, et c'est dit avec d'autant plus de force que Marthe et Marie sont des amis, et Lazare aussi. C'est un lieu auquel Jésus allait souvent. Donc il semblerait qu'à ce moment-là, il soit entré dans les mœurs divines, et que Jésus n'ait pas besoin de les enseigner de cette manière très très forte. Or Jésus aimait, et vous voyez, immédiatement après on se souvient, il aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand donc il eut appris que Lazare était malade, alors même il demeura 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 2 jours où il est libre. Puisqu'il est au désert, d'une certaine manière. Donc il est libre. Et 2 jours, il attend. Une espèce de patience divine, mais qui est terriblement lourde à porter pour Marthe et Marie. Et Jésus le sait bien. Lui attend. Il demeura 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, allons en Judée de nouveau. Donc il se décide à partir. Les disciples lui disent, Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient de lapider. Et de nouveau, tu t'en vas là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche le jour, il n'achèvera pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche la nuit, il achève, parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit cela. Après quoi il leur dit, Lazare, notre ami, repose. Mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort. Et ils pensèrent, eux, qu'il parlait du repos du sommeil. Vous voyez bien, Jésus est très conscient et s'y revient. De façon parfaite, ce qu'il a fait. Et pourquoi il l'a fait ? Cette attente au désert est une attente terrible à porter. Et donc, au point de vue humain, elle est inhumaine. On ne traite pas comme ça des amis. Elle est inhumaine et elle est divine. Elle est parfaitement divine. Et Jésus le fait dans une lumière parfaite de la sagesse de Dieu. Il fait ça pour éprouver. Oui, c'est ça. Dieu nous conduit en nous éprouvant, en sonder nos cœurs et que notre cœur aille jusqu'au bout de la fidélité.
esclave, cette maladie est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu par rapport à Lazare, mais c'est surtout par rapport aux deux sœurs. Puisque c'est les deux sœurs qui compatissent, mystère de compassion. Et c'est les deux sœurs qui auraient voulu, plus encore que Lazare, qu'ils se guérissent. Alors, Jésus leur dit, Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Ça, c'est très important pour saisir la conduite de Dieu à l'égard du mal, à l'égard de la mort, à l'égard de tout ce qui nous blesse. Thomas a béni Dieu, dit aux autres disciples, allons nous aussi pour mourir avec lui. C'est Thomas qui dit ça. Hein. On voit bien le climat dans lequel les apôtres se trouvent. Vous voyez ces trois aspects. D'une part, hein, Marthe et Marie et Lazare. D'autre part, les apôtres et Jésus. Et Jésus libre de tout conditionnement humain et n'agissant que dans la lumière du Père et la volonté du Père. Et faisant ça pour les apôtres, et faisant ça pour Marthe et Marie, pour les éprouver. C'est une épreuve terrible. Encore une fois, humainement parlant, on ne pourrait pas le comprendre ça. Il n'y a que Dieu qui peut reprendre tout par la miséricorde et qui reprend tout dans la miséricorde. C'est pour ça, c'est pour que soit par là manifestée la gloire de Dieu. Étant donc venu, Jésus trouva Lazare depuis 4 jours déjà au tombeau. Alors on souligne les deux attitudes de Marthe et de Marie par rapport à Jésus. Elles sont tout autres et en même temps elles sont très semblables. Les deux soulignent à leur façon la très grande douleur qu'elles ont eue de voir que Jésus n'était pas là. J'allais presque dire que cette souffrance était plus forte pour eux que la mort de leur frère. Parce que Jésus donnait l'impression de ne pas s'occuper de leur souffrance. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc c'est cette présence de Jésus, pour aussi bien pour Marthe que pour Marie et tout. Il y a une petite nuance entre les deux. Je n'insiste pas, mais c'est important de souligner cette prière de demande. La prière de demande de Marthe, plus active, et la prière de demande de Marie, contemplative. Et voyez que la prière de demande de Marie contemplative est celle qui atteint immédiatement le cœur de Jésus. Alors, soulignons la réponse de Jésus à Marthe. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, mort vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Oui, sacerdoce lié à la résurrection. Donc, on comprend que l'œuvre sacerdotale du Christ implique le mystère de la résurrection. Le mystère sacerdotal du Christ passe par la croix va impliquer le mystère de la résurrection. Donc, ce qui montre bien que ce sacerdoce est le sacerdoce de la vie éternelle, victorieux du mal et de toutes les conséquences du péché. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fut-il qu'il mort vivra. Toujours cette grande idée que la foi est victorieuse de la mort. Et que si la foi est victorieuse de la mort, parce que justement le sacerdoce du Christ est victorieux de la mort, au fond la mort n'existe plus dans la lumière du sacerdoce du Christ. Elle existe, et elle n'existe plus comme un terme. Elle n'existe plus comme un châtiment. Elle existe comme un moyen pour manifester la gloire du Père. Jésus donne à la mort une nouvelle signification. Et ici, c'est explicité d'une façon très nette. La mort est vécue par Marthe et Marie comme une peine. La mort de leur frère. C'est la mort de l'ami, c'est la mort du frère, c'est la mort de celui qu'on aime, qui est toujours vécu de la manière la plus douloureuse et donc la plus pénale qui soit. La mort d'un étranger, oui, on en souffre, mais c'est quand même pas la même chose. Et si on était suffisamment sensible à la mort de tous les hommes, comme on sait qu'à chaque instant il y a quelqu'un qui meurt, on resterait toujours dans cette espèce de blessure de l'homme qui meurt actuellement. C'est vrai, la solidarité entre les hommes, si elle était parfaitement vécue, ça devrait être ça. On appartient à une race humaine qui meurt. Et cette race humaine fait qu'à chaque instant, il y a quelqu'un qui meurt. Il y a en nous, c'est très curieux, il y a en nous cette espèce de capacité vitale qui fait que c'est la mort de ceux qui sont proches de nous qui nous touche. Surnaturellement, on peut porter la mort de tous les autres, mais psychologiquement, on ne porte pas la mort de tous les hommes. On ne pourrait pas. Donc cette espèce d'instinct de vie qui fait qu'on oublie, qu'on efface de la mémoire rituelle pour vivre tout simplement. Pour Jésus, la mort est vécue d'une façon toute différente. C'est plus peine. Pour Jésus, la mort est vécue comme un moyen dont on se sert pour manifester la gloire de Dieu. C'est ça, là. Je crois, ce qui caractérise un des aspects du mystère du Sauveur et donc du sacerdoce de Jésus. C'est un sacerdoce qui donne la vie et qui donne un sens à la mort. Le sacerdoce du Christ, donc, ceci sera vécu de deux manières différentes, par le sacerdoce royal des fidèles et par le sacerdoce ministériel. Vous savez bien que pour les gens, le prêtre, c'est celui qui accompagne les morts. Je me souviens, c'était une fois avec le père de Monténard, on se promenait. C'est rare qu'on avait un peu de temps de se promener, mais on se promenait. Et alors les gens qu'on voyait, disaient, mais vous cherchez un mort. Ils étaient tellement éperlués de voir deux curés. Vous cherchez un mort, c'est ne pas faire que ça. Il est là pour ça. Et c'est très beau du reste. Le prêtre est lié à la mort. Il est lié à la mort. Il y a un lien. Et le sacerdoce ministériel, il est lié à la mort. Très peu de personnes refusent le prêtre à la mort. Très peu. Et le petit reste, vous voyez, de foi ou d'attitude religieuse fait que quelqu'un comme un appel. toi parce que je crois qu'en face de la mort, on est en présence nécessairement de l'au-delà, donc de Dieu. Et que le prêtre est le médiateur de l'homme et de Dieu. Alors, à ce moment-là, il y a comme un appel qui reste. Et ceci, c'est vrai du prêtre au niveau ministériel. C'est pour ça que je crois que c'est une très grave erreur de laïciser les enterrements. Vous voyez, c'est-à-dire de que le prêtre ne soit plus présent. Pour beaucoup de raisons, hein, pour beaucoup de raisons. Mais la raison la plus fondamentale, c'est que le prêtre, c'est celui qui donne un sens nouveau à la mort. Parce que le sacerdoce du Christ donne un sens nouveau à la mort. C'est quelque chose de très impressionnant, cela. Du reste, les historiens, au point de vue des traditions religieuses, notent toujours qu'une civilisation qui va jusqu'à laïciser la mort, comme la nôtre, c'est le signe que l'attitude religieuse disparaît complètement. Parce que c'est la dernière chose qui reste. C'est la mort qui est le plus liée à l'attitude religieuse. Parce que c'est à ce moment-là où l'homme comprend le mieux sa totale dépendance à l'égard de quelque chose qui dépasse. Alors, c'est quand même très beau, parce que celui est explicite. Hein. Le mystère, quand Jésus vit sa mort, Jésus ne dit rien. Oui, il dit dans la grande prière, il le dit dans la grande prière, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. Donc, sa mort va glorifier le Père. C'est la gloire suprême. Hein. Pour le Fils bien-aimé, glorifier le Père. Glorifier le Père en offrant sa vie. Offrir sa vie librement, c'est pouvoir glorifier le Père. Et ça, c'est un acte sacerdotal dans le sens très très profond. C'est peut-être, vous voyez, quelque chose sur lequel il faudra revenir parce que c'est pas beaucoup développé et aujourd'hui c'est nécessaire. Parce que ce fait que le prêtre n'accompagne plus les mourants, le prêtre n'accompagne plus les morts au cimetière, tout ça me semble quelque chose d'assez terrible. Et je vois qu'à Genève, la réaction saine qu'ils ont eue, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, dans une ville comme Genève, on ne garde plus les morts chez soi, les cadavres. Donc on les met tous dans un bâtiment neutre, laïque par excellence, où ils sont tous là. Et donc, au fond, pratiquement, on supprime les enterrements. Alors il faut que, dans le presbytère, si vous voulez, sous l'église, il y ait une chambre mortuaire garantie scientifiquement et techniquement. Pour que le mort puisse rester à l'église. Ils en ont parlé quand ils étaient là en disant, parce que la première chose qui faisait ça, on les appelait alors, les messes se font dans un endroit en dehors de l'église. Et vous avez 10 minutes ou un quart d'heure. Et autant que possible, pas plus d'un quart d'heure. Parce qu'il y a les enterrements qui succèdent. C'est plus des enterrements, c'est des espèces de bénédictions. C'est très curieux, parce que et Genève est particulièrement significative comme ville pour ça, et en Amérique aussi, hein. La laïcisation de la mort. Alors je crois que c'est très important pour nous d'essayer de comprendre le sacerdoce du Christ face à la mort comme dimension, parce que c'est très rare. Alors, il y a quelques passages très descriptifs chez Saint Jean. Les dialogues de Jésus avec Nicodème, avec la Samaritaine, c'est très descriptif. Et puis ici, c'est très descriptif. C'est-à-dire que Jean montre des aspects d'émotion dans le cœur de Jésus, dans ceux qui sont autour, et l'attitude du Christ. voit que Jésus pleure parce que Marie pleure à cause de la mort de son frère. Et Jésus montre qu'il est la résurrection. Donc c'est son sacerdoce. Je suis la résurrection. C'est peut-être même ce qui montre ce qu'il y a d'ultime dans le sacerdoce du Christ. Maître de la vie et de la mort, et donnant à la mort une nouvelle signification, puisque la mort va pouvoir être un moyen permis par Dieu et voulu par Dieu pour glorifier Dieu. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Puisque la résurrection relativise la mort et s'en sert comme un moyen, il n'y a plus de mort. Il ne mourra jamais. Et c'est vrai au sens le plus fort. C'est pas seulement le point de vue surnaturel de la grâce. C'est le point de vue de la grâce qui s'incarne, de la grâce chrétienne. Il ne mourra jamais, puisque l'absolu de la mort disparaît. Et donc la mort n'est plus la mort. Alors on voit très bien, quand Jésus dit ça à Marthe, et que Jésus lui demande si elle croit, oui Seigneur, moi j'ai toujours cru que c'était toi, le Christ, le Fils de Dieu, qu'il doit venir dans le monde. À Marthe dit cela, et à Marie au contraire. Alors ça c'est aussi très très beau. À Marie qui pleure, se jette aux pieds de Jésus. Elle tombe à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Oui, c'est la même phrase, c'est tout. C'est l'union des deux sœurs dans leur souffrance vis-à-vis de leur frère. Et cependant, je suis sûr que la tonalité est différente. Ça, j'en suis sûr. La manière dont Marthe a dit ça à Jésus, la manière dont Marie a dit ça à Jésus, c'est sûrement très différent. Et ça touche différemment le cœur de Jésus. C'est le mystère de la parole et de la foi dans la parole. Et ça, ça fait partie de la prière, ça. Il y a un accent qui est l'accent de Marthe et l'accent de Marie. Ça fait partie de la liturgie. Hein. Vous voyez bien. Et ici, et c'est ça qui est très très extraordinaire, parce que c'est montré, et le fait même qu'on reprend à peu près les mêmes paroles. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Marthe avait dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marie ne n'imite pas Marthe quand elle prie. Et quand elle s'adresse à Jésus, elle n'imite pas Marthe. Parce qu'elle a un lien avec Jésus qui est plus intime. Mais toutes les deux ont la même parole. Et toutes les deux le disent différemment. Et Jésus donc, quand il la vit pleurer, alors ça c'est la liturgie des pleurs, c'est un peu plus particulier, pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, gronda en son cœur. Ça c'est le Père Hostie, c'est le tonnerre, hein, l'Esprit Saint qui gronde, et gronda en son esprit et se troubla. Donc Marie, par sa prière, atteint tout de suite le cœur de Jésus. Et alors le caractère extrêmement net et pratique dans le cœur de Jésus, où on lui dit, Seigneur, viens et vois. Jésus versa des larmes. Les Juifs disaient, voilà comme il l'aimait. Et certains d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que cet homme ne mourût pas? C'est évident qu'il pouvait le faire. Il a laissé aller jusqu'au bout les lois de la nature. En vue de faire que la mort soit assumée, en vue que la mort soit portée par l'amour, Jésus donc, grondant de nouveau en lui-même, vint d'autre bout. Vous voyez les deux réponses de Jésus. Parce que je crois que là nous saisissons le mystère de Jésus face à la mort. Puisque les deux présentent à Jésus la mort de leur frère. Selon une tonalité différente, mais de la même manière. Jésus répond à Marthe par le mystère de la résurrection. Et répond à Marie par un geste. Où on l'a mis. Et il va vers le tombeau. Et par des pleurs. Très curieux. Parce qu'on pourrait dire que à Marthe, il aurait répondu d'une manière concrète et à Marie, il suffit qu'il réponde d'une manière contemplative. Marie comprend une réponse contemplative. Tandis que Marthe ne comprend pas une réponse contemplative quand Jésus dit « Je suis la résurrection ». Ou elle affirme qu'elle croit, mais ça passe pas. Et à Marie, il répond à la contemplative, il répond par quelque chose d'extrêmement concret. Oui, je crois que là, on a vraiment la réponse de Jésus, bon pasteur, pour Marthe et Marie, qui connaissent ses brebis. La réponse, ça ne certaine pas de Jésus, puisque tout ça, c'est de l'ordre du salut et du sacerdoce du Christ. C'est toujours des réponses de complémentarité. Ce dont on a le plus besoin, c'est comme ça que Jésus répond. C'est pour ça que ça nous déroute tout le temps. Parce qu'on n'a pas demandé ce qu'on avait le plus besoin. On demande l'Ipédia. C'est comme ça. Et Jésus répond. Parce qu'ils sont des reins et des cœurs. Parce que Jésus ne s'est pas trompé. Hein. Il n'a pas cru que c'était Marie. Puis il a cru que c'était Marthe. Ouais, non, il ne s'est pas trompé du tout. Il sait très bien. Ils sont des reins et des cœurs. Et ce qui manque le plus à Marthe, c'est regarder la contemplation de la résurrection. Regarder Jésus comme la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Face à la mort, on comprend ce que c'est que la vie. Et à Paris, c'est pas ce qui manque le plus, c'est l'aspect pratique, non. Mais Marie a sans doute beaucoup plus tout accepté. Parce que si on contemple la résurrection, on accepte tout. Et il donne le surcroît. C'est toujours dans la contemplation que Jésus donne le surcroît. Le signe, c'est un surcroît. La résurrection, c'est un signe. Le geste qu'il fait de ressusciter Lazare, c'est un signe par surcroît. C'est comme un mari à l'Annonciation. Il donne un signe par surcroît. Ici, ce signe est un signe frappant. C'est un signe extrêmement tangible, c'est un signe qui est un miracle, et le miracle le plus désiré de Marthe et Marie, le plus merveilleux. Elles avaient souhaité que Jésus soit là pour qu'il ne meure pas. Mais Jésus a fait quelque chose d'infiniment plus grand, puisqu'il leur rend Lazare en le ressuscitant. C'est encore beaucoup plus grand. Il leur a permis à l'une et à l'autre d'exister. expérimenter l'amour qu'elles avaient pour leurs frères. Il faut aller jusque-là. Vous savez, c'est cette supérieure d'une communauté religieuse qui était mourante, supérieure générale, qui était mourante. Alors à ce moment-là, elle reçoit des petits mots de toutes ses sœurs, même celles qui étaient les plus lointaines psychologiquement, et de toutes ses sœurs. Et puis elle ne meurt pas. Alors, elle a eu cette authentique, elle a dit. Elle a dit, c'est quand même dommage qu'il faut être près de la mort pour savoir que on est uni dans la charité fraternelle. Mais c'est très très profond, ça. C'est devant la mort qu'on est vrai. C'est devant la mort que tout se relativise et qu'on a un langage vrai. C'est vrai, c'est très rare les gens qui ne sont pas vrais en face de la mort. Enfin, quand ils disent on ne ment pas devant la mort, c'est impossible. On ne peut pas. Parce que c'est directement Dieu. On sait que c'est directement Dieu. Si Dieu est là, le maître de la vie et de la mort. On ne peut pas mentir, on ne peut pas raconter des histoires, on ne peut pas falsifier, ça ne se falsifie pas. Alors, ces robes de vérité, hein, ça montre ce qu'il y a de plus profond dans le cœur des hommes. Et c'est vrai que, ordinairement, dans la vie religieuse, il peut y avoir des divers sens d'opinion et tout ça. Il y a quelque chose de plus profond, c'est le lien de la charité. Et ce lien de la charité se révèle à ce moment-là. Il serait souhaitable qu'il se révèle à d'autres moments aussi. Mais on comprend très bien que quelquefois, c'est à ce moment-là seulement que certaines choses peuvent s'aplanir, se dépasser. Alors, c'est quand même extraordinaire de voir la manière dont Jésus éduque Marthe et Marie. En se servant, je dis bien en se servant de la mort, pour que il permette à Marthe et Marie de découvrir tout l'amour qu'ils ont pour leur frère. Devant la mort de leur frère, l'une et l'autre découvrent tout ce qui les lie à leur frère. Et cet amour étant dans toute sa force, tous les obstacles ayant disparu, tous les obstacles qui empêchent ce lien d'amour d'être plaigné, Jésus leur rend leur frère à ce moment-là, en le ressuscitant. Et c'est comme une espèce d'un nouveau départ, si vous voulez, d'un renouveau de ce que représente cette communauté. Ça, c'est très grand. Ça exprime quelque chose. Hein. Parce que Jésus ne joue pas. Hein. C'est pas un jeu liturgique, ça. Quand il s'agit de la mort, c'est quelque chose qui... Alors, la liturgie enveloppe la mort. Hein. La liturgie chrétienne implique la liturgie de la mort. Et c'est quelque chose d'être assez extraordinaire pour qu'on comprenne que le sacerdoce du Christ enveloppe la mort, que le sacerdoce du Christ dépasse ce point de vue-là, parce que justement c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Alors on nous décrit la manière dont Jésus, pour Marthe et Marie, va auprès du cadavre. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du trépassé, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, il réalise de Marthe. Jésus a dit, je suis la résurrection. Pour elle, parce qu'il faut que ce réalisme très très fort soit transformé par un autre réalisme, le réalisme de la résurrection. Et le réalisme de la résurrection, il est présent à chaque instant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc voyez bien, Jésus rappelle le réalisme de la résurrection. Et que le réalisme de la résurrection devrait permettre à Marthe d'avoir une autre vision. Et Marthe est restée avec son regard très positif. Parce que c'est quand même une petite remarque que lui fait Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est très extraordinaire ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, le mystère, le geste du Christ, de la résurrection, est impliqué dans ce mystère de la gloire de Dieu. Ça, c'est sûr. On ôta donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. C'est un geste tout à fait sacerdotal de médiateur. Et regarde, Dieu regarde les hommes et les tunis. Moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, ici dehors. Commandement du Christ, commandement de celui qui, par son sacerdoce, commande à la mort. oubliez-le et laissez-le aller. Mais ce que Dieu seul peut faire, Dieu le fait. C'est la toute-puissance de Dieu qui est. Alors, on nous montre ensuite les réactions. Beaucoup de juifs, donc, qui étaient venus vers Marie et qui avaient vu ce qu'avait été, ce qu'avait fait Jésus, crurent en lui. Mais certains d'entre eux s'en allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. On est dans un état d'alerte, hein, faut pas l'oublier, parce que Jésus était parti, parce que justement voulait le lapider. Donc, à Jérusalem, c'est ce que les disciples disaient, c'était dangereux d'aller à Bethanie, tout près de Jérusalem. Manière dont ce geste